Un jour, un livre, un auteur va nous entraîner très très loin. Aujourd'hui, on va quitter la France puisque je crois que la personne que vous allez avoir comme invité va nous faire voyager.
Tout à fait,
Bonjour à
Philippe
tous les deux.
Subercase.
Ben,
Bonjour à tous.
bonjour.
Bonjour Philippe Subercase et bonjour Diego Arrabal.
Bonjour les deux Philippe.
On va parler aujourd'hui d'un pays dont on entend très souvent parler à la télévision, à la radio, dans les médias, sur les réseaux et pas forcément, même pour ne pas dire pas du tout en
En
bien,
bien.
puisqu'il s'agit de l'Iran. Hein, donc on parle souvent de ce pays en le citant comme étant une république islamique avec des lois effectivement extrêmement dures. Ça, on le connaît, on le sait depuis janvier 1979, et puis celui qui vous parle à l'instant le connaît bien, puisque j'ai quitté l'Iran, moi, le 17 janvier 1979, le lendemain du Shah d'Iran. Donc je me rappelle très bien de ce qui s'est passé là-bas. On reçoit aujourd'hui, donc, pour un livre assez singulier, La Perse en 1892, Vestiges des mille et une nuits aux éditions L'Harmattan, livre traduit de l'anglais en français par Patrick Vautrin. Donc aujourd'hui, le but de cette émission, c'est un autre regard. On aurait pu appeler cette émission aujourd'hui un jour, un livre, un auteur, un autre regard spécifique sur la Perse, un autre regard spécifique sur l'Iran, qui est le même nom, pour désigner ce pays. Bonjour Patrick Vautrin.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de m'avoir interviewé, de m'interviewer, on va dire.
Alors, je remercie Atta Hayati, qui est pas là aujourd'hui avec nous, donc qui travaille pour les éditions L'Harmattan, mais également aux éditions Rive-Neuve, qui nous a contactés à présence et qui nous contacte assez régulièrement pour nous orienter des livres qui sont publiés aux éditions L'Harmattan et qui sortent effectivement des chemins battus. Et nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de l'ADN qu'on a à un jour un livre, un auteur, c'est de parler des livres dont personne ne parle. C'est ça qui est intéressant. Et notamment des livres, voyez, Patrick Vautrin qui offre un autre regard, La Perse en 1892, Vestiges des mille et une nuits, publié aux éditions L'Harmattan. Il y a une collection particulière dans laquelle c'est publié ou...
Oui, c'est l'Iran en transition, c'est Monsieur Hayati est donc le responsable de cette collection, on va dire.
D'accord, ok. Alors, c'est un récit de voyage. On va préciser un peu. Hein. C'est un livre qui a été écrit par Gertrude Bell, Bell BE2L, donc une Anglaise de la très haute bourgeoisie, donc de la sidérurgie anglaise de la fin du 19e siècle, au moment où elle entreprend ce voyage en Orient. Elle a 24 ans et elle a, bien entendu, les moyens financiers de pouvoir voyager longtemps. Et elle va faire une description de la ville de Téhéran, une observation du Ramadan chez les musulmans sunnites et chez les musulmans chiites. Je rappelle que l'Iran, hein, c'est majoritairement un pays,
Chiite.
donc voilà, pays musulman chiite. Effectivement, hein, c'est juste le martyr d'Hussein, hein, qui
C'est
célèbre
ça.
effectivement le début de la religion
Du schisme,
chiisme, voilà,
du
avec.
schismatique.
Voilà, tout à fait. Avec effectivement cette particularité chaque année où il y a pendant 10 jours cette manifestation où on voit les personnes se flageller. Je l'ai vu moi-même quand j'étais gamin en Iran. Alors, vous allez nous décrire un peu tout ça, Patrick Vautrin, parce que là, on va avoir un regard un peu différent. Qui c'était Gertrude Bell?
Alors, Gertrude Bell, donc déjà, elle avait été major de sa promotion à l'université d'Oxford en histoire, donc c'est une passionnée d'histoire, de toute façon. Elle précise que dans la haute société où les enfants apprenaient à lire très tôt, tous les soirs, où on leur lisait, où ils lisaient souvent les mille et une nuits, ils avaient un rêve d'Orient, pas congénital, mais acquis très tôt. Et donc là, à 24 ans, bon, ses parents désespérés de la marier, donc ils lui ont dit, tu vas faire un voyage. Alors elle voyage que dans les milieux diplomatiques, des choses comme ça. Donc elle est accueillie par un oncle qui est représentant de l'Angleterre à Téhéran, et elle découvre l'Orient. Et surtout, elle, de son point de vue à elle, c'est en même temps, donc on lui désigne un chaperon, on va dire, un jeune officier anglais qui doit s'occuper d'elle pour tout. Bien sûr, elle en tombe amoureuse, hein, c'est le bon âge. Et donc, et c'est lui qui lui fait découvrir la poésie persane. Elle, comme elle a des capacités intellectuelles remarquable, ben, la prendre persan tout de suite avec lui et avec un vieux, enfin, un professeur iranien aussi. Elle prend des cours particuliers sur place, puisqu'elle reste 5 mois à peu près.
5 mois.
Donc,
d'accord.
Elle apprend la poésie et elle est charmée par la poésie d'Hafez. Voilà. Le grand poète iranien.
Le grand poète iranien qui est enterré, d'ailleurs, hein, je le précise, en Iran, dans un mausolée.
Hein, oui, qui, c'est vraiment
voilà,
un symbole national.
Qui est un symbole national. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres grands poètes en Iran, comme Omar Khayyam, hein, notamment,
oui.
Voilà, ça a dit Hafez. Mais c'est vrai qu'Hafez, ça reste quand même dans le cœur des Iraniens avec Omar
Voilà.
Khayyam. Voilà, le grand poète pour lequel on a fait un mausolée. Et je le précise parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément de poète aujourd'hui qui a un mausolée. C'est le cas de l'Iran. Pour lesquels, effectivement, c'est très important. Alors, je le précise, Patrick Vautrin, parce qu'en persan, la
Oui.
particularité du persan, c'est que le persan, quand on le parle, on le parle avec beaucoup, effectivement, de poésie. On parle avec beaucoup d'images. Et c'est aussi pour ça que la particularité des persans, effectivement, c'est d'aimer, effectivement, cela. Et alors, on revient à Gertrude
Oui.
Brel, donc elle découvre cette poésie, alors qui plus est dans la langue persane, qui est vraiment
Oui,
une langue
voilà.
très très belle. Et qu'est-ce qui se passe
Et puis,
ensuite?
elle, c'est son attitude normale quand elle. Là, c'est sa première expérience. Mais dès qu'elle va quelque part, il faut absolument qu'elle apprenne la langue, qu'elle puisse s'adresser aux gens, qu'elle puisse rentrer en contact intime avec la société. C'est toute sa carrière, après, ça sera ça, quoi.
Ça sera ça. Donc, elle écrit, donc, en fait, un livre, La Perse, en 1892, Vestiges des mille et une nuits en anglais. Donc, on précise que vous êtes traducteur anglais-français, donc vous avez traduit ce livre pour le compte des éditions, donc, L'Harmattan. On précise aussi,
L'Harmattan.
voilà, que vous êtes également traducteur du russe en français.
Du
Donc,
russe.
il est
Ouais.
probable qu'à l'avenir, on vous ait à nouveau, donc, sur cette antenne pour parler d'autres livres qui, là, par contre, évoqueront peut-être l'Iran, mais aussi la Russie. Et c'est quand même deux
Et
pays.
oui, j'en ai très mélangés, qui se sont beaucoup mélangés,
Voilà.
de façon plus ou moins amicale, selon.
Voilà. Et ça sera très bien parce que, comme on le disait, hein, l'ADN de Un jour un livre en auteur sur présence, c'est de parler des livres dont les autres ne parlent pas. Quand je dis les autres, c'est les autres journaux, les autres radios, etc., les autres médias, les autres réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Iran comme la Russie, c'est quand même deux pays dont on ne parle pas forcément en bien aujourd'hui dans les médias.
Oui,
Bon,
de
pour les
toute
raisons
façon,
que tout le monde sait. Et c'est,
connaît.
voilà. Et c'est quand même bien, effectivement, d'évoquer cet autre regard. Donc, on rappelle, hein, ici, la Perse en 1892, Vestiges des mille et une nuits, donc dans une collection dirigée par Atta Hayati, qu'on remercie donc à nouveau de vous avoir orienté vers nous. Et 1892, Gertrude Brel, anglaise de 24 ans, qui part en Orient, parce que ses parents, comme vous l'avez dit, désespèrent de la marier.
De la marier, parce qu'elle est trop supérieure à tout le monde. Et les mariages avec les grands bourgeois ou même les aristocrates, c'est la cible, c'est les aristocrates anglais. Ben, les gens sont pas à son niveau, puis ils ont limite peur d'elle, parce qu'elle est trop cultivée, elle a trop d'idées. Voilà, c'est pas une bonne femme de maison, quoi.
Ouais, ça fait sourire Diego Arrabal. Diego Arrabal, c'est l'image de la femme, vous pensez, de l'époque qui était.
Dans la haute société anglaise, entre les castes et l'époque victorienne, les femmes de bourgeoisie, ben, elles étaient bonnes à marier, un bon parti, c'était que des mariages arrangés, en fait.
Ouais, oui. et elles se devaient d'être effacées. C'est un peu aussi ce que vous voulez dire. Et dès lors,
surtout.
Elles ne devaient pas
se mêler de politique, d'histoire, de stratégie. Et elles, c'était que ça.
C'était que ça. Donc c'est quand même un destin singulier, hein, que cette femme, effectivement, Gertrude Brel. Et puis,
J'ai juste un petit nota bene à vous faire. Alors, j'ai traduit récemment là, un livre russe sur le protectorat russe au début du XXe siècle, en Iran.
D'accord.
Où l'Iran était coupé en trois, les Russes au nord, les Anglais au sud et le reste de Perse au milieu. Le problème, c'est que l'auteur de cet ouvrage est vivant, et quand j'écris en Russie à son éditeur, j'ai aucun écho. Et comme l'auteur est vivant, j'aimerais avoir son autorisation pour le publier. Par contre, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer.
Ah, ça je
pour
suis...
Pour la culture.
Oui, ça je
ah,
suis...
Parce que là, c'est très très, c'est un panorama. Alors bien sûr, les Russes, c'est l'époque impériale. Les Russes, ben, ils sont très, ils sont sûrs de leur fait, quoi. Ils sont là pour protéger, etc. Et c'est le combat contre les Kurdes d'Iran, qui sont des nomades, etc. Et il y a un panorama qui nous annonce l'avenir assez impressionnant. Mais c'est un livre orienté militaire. C'est que des résultats de témoignages et d'archives militaires, mais ça n'empêche pas de la poésie par moment.
D'accord, ben ça nous intéressera.
Et
On vous
c'est un
donnera,
vrai ouvrage historique.
ouais, on vous donnera hors antenne tout à l'heure l'adresse
Voilà.
effectivement où nous envoyer le service de presse.
Ouais.
On revient à Gertrude
Bon.
Bell, donc
On revient à Gertrude.
voilà la personne 1892, Vestiges des mille et une nuits, donc que vous avez traduit. Donc elle décrit la ville de Téhéran. Elle fait une observation du Ramadan chez les sunnites et les chiites. Elle fait une
Voilà.
description de la ville de Téhéran. Moi j'ai une question.
Et aussi, et du deuil du Seigne. Voilà, c'est surtout le deuil du Seigne. Quand elle rentre en Perse, elle tombe au moment du mois de Muharram, je crois que ça s'appelait,
C'est ça, tout à
où
fait.
elle est confrontée pour elle. Alors, elle n'apprécie pas trop la religion chiite. Elle est plutôt agnostique, athée. Et elle les trouve très rigides. Par contre, elle aime beaucoup les gens. Les gens en dehors de la religion. La religion l'impressionne pas favorablement, ce qui fait écho à aujourd'hui, ce qu'on connaît. Et voilà.
Quel est le devenir de ce livre? Parce que bon, il est écrit par une femme. Quel est
Oui.
l'écho à l'époque qui est donné
Alors,
à
à
un livre?
l'époque, il a eu un écho public en Angleterre, hein.
D'accord.
Moyen, on va dire. C'est son premier livre. Il est pas. Enfin, il est très original et elle parle de choses complètement exotiques pour le grand public. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui. On ne parlait pas de ça tous les jours. Voilà.
D'accord. Est-ce que c'était quelque
Et.
chose un peu comme les cabinets, comment ça s'appelait, les cabinets de curiosité, qui sont un peu les ancêtres, hein, des musées aujourd'hui? Il y avait des cabinets de curiosité, notamment dans les maisons bourgeoises en France. Je ne sais pas si c'était le cas en Angleterre. Est-ce que ce livre, c'était un peu, voilà, un livre qu'on pouvait faire rentrer dans le cabinet de curiosité, donc d'une maison bourgeoise ou d'une bourgeoisie qui aurait lu ce livre un peu comme on venait à l'époque aux expos coloniales? Voilà, ben pour découvrir un peu des gens qu'on ne connaissait pas, découvrir dans les colonies ce que l'on avait. Est-ce que c'était un peu l'accueil qu'il a pu y
Ouais.
avoir par rapport à ce livre à l'époque, et qui plus est écrit par une femme? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on pouvait lire un livre écrit par une femme?
Ouais, alors je pense qu'à l'époque, elle avait eu son degré de major d'Oxford en histoire. Elle était très célèbre en Angleterre pour ça. Elle faisait des conférences, elle allait partout, enfin, elle était toujours plus ou moins dans la haute société en Angleterre, en Europe. Elle avait fait des voyages. Elle rencontrait les couronnes, rois de Roumanie, rois de Grèce. Elle parlait allemand, français, bien sûr, couramment, etc. Donc, elle avait une grande célébrité pour avoir été la première femme major d'une promotion en histoire, parce que les femmes allaient très peu à la grande université.
Et oui, à
C'était une
l'époque, oui.
nouveauté.
On remet dans le
Donc, elle a
contexte.
été très célèbre pour ça, et son livre a eu un succès dans la haute société pour ça. Mais pas un succès populaire, comme on dirait aujourd'hui.
Mais pas un succès populaire, voilà, comme on
Par
dirait.
contre, d'office, son sens d'observation, sa finesse et tout, a fait qu'elle a eu autour d'elle, dans son milieu diplomatique, des gens qui se sont intéressés à elle.
Est-ce
Donc
que.
les futurs manigancers, voilà, du début du XXe siècle, quoi.
Alors ça, c'est la question que j'avais effectivement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle pénètre la société iranienne, elle apprend le persan, est-ce qu'elle a été une source de renseignement?
Alors, sur la Perse moyenne, enfin, quand même, parce qu'elle raconte la vie quotidienne, l'esprit religieux. Bon, il y a l'épidémie de choléra aussi, donc elle le décrit, elle le critique, bien sûr. Elle dit, en Orient, franchement, ils sont pas comme nous, la société du progrès, de l'industrie, tout ça. Donc, elle a un regard occidental. En plus, elle est jeune, là. Voilà. Et donc, elle a eu, de toute façon, ce succès dans la société, on va dire, très éduquée et intéressée par l'histoire et donc par la politique, en fait. Puisque peu de temps après, on a eu le protectorat anglais. Déjà, on visait le pétrole au début du XXe siècle.
Le pétrole iranien, voilà, au début
Voilà.
du XXe
Alors,
siècle.
ouais. En gros, le protectorat qui a eu lieu à ce moment-là, c'était pour se réserver la rive du golfe Persique avec les gisements et la possibilité de raffiner sur place, etc. Elle est très liée à la géopolitique de toute façon.
Elle est très liée à la géopolitique. Est-ce qu'elle est consciente de tout ça, parce
À
que.
cette époque-là, pas spécialement, elle est passionnée tout simplement de ça. Et c'est plus tard après, ça a été très progressif. C'est donc 1892, c'est en 1900 qu'elle est repartie pour apprendre l'arabe à Jérusalem, après pour traverser l'Empire ottoman un peu dans tous les sens. Là, elle était active, on va dire.
Active, c'est-à-dire elle travaillait pour les services de renseignement, c'est ça oui. que vous vouliez dire?
Oui, alors c'est jamais dit ouvertement, mais elle avait un correspondant ami, bien sûr, toutes des relations amicales, qui lui disait, ah, ben, ça serait bien que tu nous envoies tes notes, etc. Voilà, comme elle avait un talent de curiosité, d'attention, d'empathie, etc. Elle était géographe, astronome, enfin, on peut tout faire. Hein. C'était un personnage académique, on va dire, très académique. Et donc, elle a tout de suite intéressé les géopoliticiens anglais, quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que ça vous semblerait, la comparaison pourrait vous sembler trop forte ou pas, est-ce que ça aurait été la Laurence d'Arabie, mais au féminin?
Ben, tout à fait, parce que c'est elle, ensuite qu'elle a eu ses expositions en Arabie Saoudite, en Syrie, en Mésopotamie, et en 1915, quand ils ont créé le bureau arabe Likert, c'est elle qui est venue les former avec toutes les généalogies des tribus, les puits dans le désert, les pistes, enfin, elle savait tout, quoi. Ils l'ont recruté comme, ben, elle a formé l'équipe de Laurence d'Arabie, le bureau arabe du Caire.
Le bureau arabe
du Caire. Pour lancer la grande offensive. Et elle, pour finir, sa création, c'est l'Irak.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est elle qui crée l'Irak. Alors, expliquez-nous un peu
carrément.
Ça.
Carrément. Alors, c'est simple. Il y a Laurence d'Arabie, donc, lui, le plus connu. Il était monté jusqu'à Damas avec un Faisal qui l'avait décidé de faire roi. C'est lui qui dirigeait la révolte arabe. Les Français n'en ont pas voulu à cause des accords Sykes-Picot. Et elle a récupéré le Faisal qu'elle a intronisé avec l'accord du gouvernement, bien entendu, mais difficilement. C'était Churchill qui était aux affaires à l'époque. Et elle a intronisé comme roi. Et parce qu'elle, avec son talent, avec son empathie naturelle, que ce soit les Kurdes, les Juifs, les chrétiens, les sunnites, les chunnites, elle avait réussi à tous les rassembler sous l'autorité d'un prince arabe venu d'Arabie future saoudite.
D'accord.
Voilà.
C'est un destin quand même assez exceptionnel parce que quand elle crée donc l'Irak, vous dites donc elle crée les frontières de l'Irak. Hein. On rappelle juste que à l'époque ça faisait partie effectivement de l'Empire ottoman. Quand l'Empire ottoman donc s'écroule en 1918 et crée la Société des Nations. Et en 1921, donc de mémoire, la Palestine et l'Irak sont donnés sous protectorat donc à l'Angleterre et la Syrie et le Liban en protectorat à la France.
Là où il n'y avait pas de pétrole, tant qu'à faire.
Là où il n'y avait pas de pétrole, voilà, tant qu'à faire.
Hein, donc, les Anglais ils étaient plus prévoyants.
Ouais, ils avaient un sens des affaires qui était effectivement assez fort. Donc elle crée.
Alors, ils avaient une vraie stratégie à long terme, quoi.
Ouais. Elle crée en fait l'Irak, c'est-à-dire que quand elle crée le pays irakien, sur quelle base elle va créer l'Irak? Parce qu'on voit aujourd'hui que l'Irak est un pays à 60% chiite et à 40% sunnite. On a vu quand Saddam Hussein est tombé, les guerres qu'il y a eu, qui avaient été mises sous silence du temps où Saddam Hussein était là de par la dictature sanglante qu'il avait. On a vu après les oppositions. Elle, comment elle raisonne pour créer ce pays avec des entités qui sont aussi différentes?
Oui. En fait, elle a, sur son talent et puis son amour de ces pays, après, donc au début, c'est la poésie d'Hafez dans le premier livre, la curiosité pour les mœurs, etc. Ça lui plaît, ça lui plaît pas, mais elle aimait beaucoup l'hospitalité des gens. Voilà. L'accueil de l'oriental. Voilà. Et après, alors, j'ai plus ce que je voulais dire, donc, après, donc, ça, elle développe une passion débordante, elle y passe sa vie, quoi, en fait, là-bas. Donc, avec les moyens qu'elle avait, elle organise des expéditions sans arrêt. Et c'est juste par son talent et son empathie qu'elle arrive à créer des relations de confiance avec toutes les tribus, les Kurdes, les chrétiens, les juifs, les sunnites, les chiites. Et c'est vraiment sa création. Mais très rapidement après, Laurence d'Arabie, elle a disparu assez vite, elle a été mise de côté. Quand le mandat anglais s'est vraiment installé, on lui a laissé créer cet État en disant, bon, pourvu qu'elle réussisse, elle a réussi. Et très rapidement, elle a été mise à l'écart. Donc elle s'est occupée, elle a créé le musée des antiquités de Bagdad.
Bagdad, oui.
Et après, elle est morte. Voilà. À 56 ans, un truc comme ça.
Alors, Gertrude Oubel, anglaise de la très haute bourgeoisie de la sidérurgie anglaise qui avait 24 ans et qui, dans le cadre du livre La Perse en 1892, Vestiges des mille et une nuits aux éditions L'Harmattan, se rend en Orient, plus précisément en Iran. Elle a 24 ans. Elle va décrire la ville de Téhéran. C'est elle qui va, comme vous nous le disiez tout à l'heure, Patrick Vautrin, créer les frontières de l'Irak. Elle va rencontrer Laurence d'Arabie et le former donc au Caire ainsi que son équipe sur l'ensemble des tribus, la culture des tribus. Comment vous expliquez que cette femme ait été oubliée par l'histoire?
Alors, en Angleterre et en Amérique, non, parce que du coup, j'ai pu trouver facilement ses originaux. Et bah, fait de justement, et en France particulièrement, mais parce que en France, donc, eux, ils avaient comme tête de Turc, pas le cas de le dire, Laurence d'Arabie, qui avait mis la main sur la Syrie, qu'il avait promis aux Arabes, et qui avait choisi un roi, le fameux Faisal.
Le fameux prince Faisal, oui.
Et c'était les fils du grand religieux de la Mecque, là. Le mot me vient pas. Donc, c'était les héritiers et c'est eux maintenant qui gouvernent la Jordanie. Voilà, un descendant. Je sais pas le mot qui me vient là.
Les Hachémites?
Et Hachémite,
Les
voilà.
Hachémites, ouais.
Hachémite. Donc lui, c'était le fils aîné ou pas, mais c'était le plus capable. Donc c'est elle qui l'a récupéré. Mais alors, les Français n'ont pas dû trop aimer qu'elle récupère celui qu'ils avaient rejeté, qui réussit. Laurence d'Arabie, on peut en parler tant qu'on veut, il a raté pour les Français à l'époque. Et elle était complètement, quasiment ignorée, quoi.
Parce
Donc on n'allait pas faire la gloire d'une femme en plus, nous on est un peu machistes en France, plus encore dans les années 20, une femme anglaise de surcroît. À l'époque on était à la fois alliés mais toujours en concurrence sur la planète. Donc on n'allait pas s'intéresser plus que ça à cette femme qui avait fait quelque chose, puis après qui a disparu dans les brumes de l'histoire, en France en tout cas.
Et oui, parce qu'on là, moi, je vous avoue que quand Atayati m'a contacté pour me parler de Gertrude Bell, ma première question, ça a été, mais
C'est
qui
qui?
c'est? Mais ouais, on n'a jamais entendu. Puis derrière, quand on voit le
C'est tout.
destin que vous nous présentez,
Ah,
on
c'est...
se dit comment elle a pu ne pas arriver. Alors, on peut le comprendre dans les années 20, mais aujourd'hui, en 2025, soit plus de 100 ans
Ben,
après.
malgré tout, sur Arte, ils avaient fait une soirée, une théma sur elle, il y a une dizaine d'années. Il y a Werner Herzog, le cinéaste allemand, qui a fait un film sur elle qui est jamais sorti en France.
Ah d'accord.
La Reine du Désert, Queen of Desert. Et par contre, avec Nicole Kidman qui jouait son rôle, il avait mis les moyens quoi pour son film. Et en France, moi j'ai attendu des années, je savais que le film se faisait. Et ben j'attends encore. Alors du coup, je l'ai écouté en anglais. Voilà.
Et je suis en train de
Donc
regarder.
elle n'était pas ignorée, vu le contexte géopolitique qui est de toute façon le même, on a toujours la même planète, toujours le même pétrole, on est tous les mêmes hein, depuis longtemps, longtemps. Donc elle n'est jamais sortie de l'histoire, au moins dans les gens géopolitiques, tout ça, historiens, dans le domaine anglophone, quoi.
Voilà, La Perse en 1892, Vestiges des mille et une nuits, édition L'Harmattan, traduit par Patrick Vautrin dans l'excellente collection L'Iran en transition. Voilà Philippe Subercase.
Ben oui, ben j'avais pas menti quand j'ai dit qu'on allait voyager aujourd'hui.
Et puis, on découvre.
Oui, on découvre, bien sûr.
Parce qu'il y a un personnage, là.
Ouais, et...
Enfin,
Ah
une
oui.
personnage.
Oui, une
Ah
sacrée
oui.
femme.
Sacrée femme. Donc, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, où effectivement
Au jour
on remet les femmes
d'aujourd'hui.
à l'odeur du jour, à l'odeur et à l'honneur du jour, surtout dans l'histoire avec un grand H, eh bien, il y a de quoi faire. Je
Eh
pense qu'il y
ben,
a un
il y en
très beau
a.
livre à lire.
Ah oui.
Il y en a.
Très, très beau livre à lire. Merci, Patrick Bautrin, d'avoir été notre
Ben,
invité.
merci à vous et puis bonne
Et à
continuation.
bientôt.
Merci.
À
Merci,
bientôt.
mais à bientôt.
À
Au
bientôt.
plaisir.
Au revoir.
Et
Au revoir.
pour nous, à
Au
la
revoir.
semaine prochaine.
Eh
Et
bien, à la
bien,
semaine
à
prochaine,
la
les
semaine
amis.
prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.